une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Gute Morgen, liebe Rundfunkzuhörer. Bonjour. Et oui, comme tous les mercredis et Sonntag Morgen, nous sommes fidèles au poste, vous, chez vous, et moi, André Muller, dans le studio avec une ribambelle de micros. Et dans son aquarium, nous avons notre ramasseur de bruit, Thomas, qui a toujours un œil et une oreille bienveillante sur le pilotage de l'émission. Ça gazouille, mon cher Thomas, dans l'aquarium?
Ça gazouille fort.
Oh là là, il a la patate ce matin, notre garçon. Et aujourd'hui, j'ai fait une place spacieuse à une voix grave, sombre, mais combien lumineuse, vous allez vous en rendre compte, cher Grant Orleppel, mon invité Pierre-Paul Zayer a de multiples casquettes sportives, culinaires, radiophoniques, télévisuelles, et il connaît toute la filmographie d'Alfred Hitchcock, et nous allons papoter de tout cela assis sur le rebord du monde. Bonjour le PPZ, mais tu préfères que je t'appelle Pierre-Paul Zayer, wie geht's dans ton monde multiple, ça gazouille?
Bonjour André, ben bonjour à tout le monde déjà. PPZ, ce sont les initiales quelque part de Pierre-Paul Zayer, et c'est vrai que très souvent on m'a appelé comme ça parce que c'est un peu plus court, mais je te laisse le choix de m'appeler.
Moi aussi j'aime bien parce que c'est un peu zéro comme ça, tu sais, tout tu fais fait. Un peu zéro. Alors je suis content de partager ce moment avec toi, hein. C'est sympa d'avoir derrière les micros de Radio Judaïka. C'est quoi? Parle-moi un petit peu tes racines alsaciennes sont ancrées ousque.
Attends, je suis riche d'Israël-Sazer, hein, donc je suis né de papa et de maman alsacien. Mon papa était du côté plutôt bâtiment, ma maman plutôt du côté agriculture. Donc, on va dire rapport à la terre, rapport à la construction. Et donc, j'ai grandi dans un petit village près d'Erstein qui s'appelle Schaeffersheim, où j'ai eu une enfance heureuse.
Paradisiaque, voilà. J'imagine.
Presque paradisiaque, ouais, parce que c'est des moments qu'on n'oublie pas. Voilà, des odeurs, des sensations, des moments partagés avec des oncles et tantes qui étaient dans l'agriculture et qui m'ont fait découvrir toute cette magie de l'Alsace.
Et j'imagine que la campagne, c'est un peu l'aventure, un terrain de jeu incommensurable. Tu jouais peut-être à Robin des Bois, à Zorro, à Thierry Lafronde, et tu te baignais peut-être dans les gravières de Erstein là-bas.
Bah écoute, tu sais que c'est comme tout le monde dans les années 60-65, quand j'avais 7-8 ans, on avait libre cours de prendre son vélo, de faire 3 km pour aller se baigner dans la gravière à Erstein, parce qu'on savait déjà nager. Les parents étaient parfois peut-être un peu insouciants, mais c'est vrai qu'ils nous laissaient faire. Donc on allait pêcher dans la Cher, hein, ça c'était un petit peu le petit cours d'eau qui courait pas loin. Puis on avait le droit de faire plein de choses, construire des cabanes dans la forêt, etc. On était vraiment très libre.
C'est génial une enfance comme ça, je crois que j'ai connu un peu la même chose. Cette petite rivière de la Cher, tu attrapais des poissons rouges?
Non, pas des poissons rouges, mais on attrapait des gardons, des goujons. Il y avait toutes sortes de choses qu'on pouvait pêcher quand on était assidus et qu'on avait envie de les pêcher.
Et j'imagine, en été, pendant les fenaisons, tu devais travailler dans les champs, apprendre la vie, la vraie vie, quoi.
Ouais, alors, j'appellerais pas ça apprendre la vie. Pour moi, c'était juste merveilleux. C'est-à-dire qu'on avait la scolarité normale, avec des instituteurs et des institutrices qu'on appréciait énormément et qu'on respectait surtout beaucoup. Et puis, dès que c'était fini, vers 4h30, 5h, c'était en général le goûter, il fallait vite faire ses devoirs. Et après, on avait le droit d'aller chez l'oncle et la tante, avec lesquels j'ai passé des moments merveilleux. Et on allait s'occuper des bêtes, on allait dans les champs avec les tracteurs, avec les chevaux, parfois au départ. Et ça a été, c'est vrai, une enfance absolument merveilleuse et magnifique pour moi.
Et en parlant de la Dorfschule à Erstein, tu étais plutôt un rêveur ou un élève assidu à l'époque?
Alors j'étais je crois déjà rêveur, mais en même temps j'étais assez bon élève, donc je crois que mes parents n'ont jamais eu de problème avec moi par rapport à ça. Il y avait beaucoup de rigueur et de règles dans la famille, donc il fallait se tenir à ça et on essayait d'avoir une scolarité sans problème. Voilà.
T'étais bon élève, si je comprends bien.
J'étais bon élève, ouais.
Premier de classe?
Non, je dirais pas premier de classe, parce que c'est pas quelque chose que j'aime dire. On va dire que je faisais partie des bons élèves, voilà.
Tu effaçais le tableau de temps en temps, en fin du cours?
Ah bah écoute, quand
tout le monde.
Quand tu nous le demandais de le faire, oui, c'était assez régulier.
On le faisait, ouais.
Bah oui.
Et je sens le sac frais, c'est mon schmoll avec la règle.
Non, jamais. Non, parce que c'était, on avait des instituteurs. J'ai eu deux instituteurs vraiment qui m'ont marqué. J'avais Madame Fourneau, qui était une dame qui venait du centre de la France à l'époque.
On disait, bah tiens, voilà. On en reparlera un peu tout à l'heure du Fourneau.
Ouais, voilà. Donc, Madame Fourneau qui était en CE1, CE2.
Ouais.
Et ensuite j'ai eu Monsieur Trush, qui était aussi le secrétaire de mairie à l'époque de Schaeffersheim et qui a été mon instituteur en CM1, CM2, qui nous a vraiment donné, on va déjà, des belles bases pour attaquer et pour rentrer dans la vie.
Dans la vie, ouais. Voilà. Mais écoute, on va un peu se reposer les oreilles avec une petite musiquette qui va certainement te plaire. Vas-y Thomas, mets-nous la rumba dans l'air. L'air de musique, hein, c'est une rumba, tu reconnais cette musique, je suis sûr.
Oui, bah écoute, je crois que c'est la grande bouffe, hein, c'est
ça. Le culinaire, ouais.
Ah ben ça, c'est une passion certainement de laquelle on va parler
on
après.
On va parler tout à l'heure, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, après cette musique, c'est vrai, quand on écoute cette jolie musique, on en parlera un peu plus tard aussi de cette voix sombre que tu as. Tu es parti un moment à Paris, aller travailler à une Boris. Et quel changement d'aller à Paris par rapport à ton petit village de Schaeffersheim. Tu te retrouves là dans cette grande ville à Paname. C'est quand même pas rien. À quel âge t'avais à ce moment-là?
Bah écoute, c'est relativement simple. J'ai fait une scolarité après mon CM2 à Schaeffersheim. Je suis parti à Obernai. Donc Obernai au lycée Freppel pendant jusqu'en troisième. Mmh. Et là, élève plutôt brillant. Il fallait absolument que je travaille dans le bâtiment comme mon père. Et moi, j'ai dit à ma maman, j'ai dit à l'époque, écoute, moi, le bâtiment, j'ai pas envie, les études m'ennuient. J'ai envie de faire de la cuisine, parce que j'avais eu la chance de faire un petit stage dans un restaurant à Obernai.
Et c'est Madame Fourneau qui t'a donné cette
envie? Non, pas du tout. J'ai une maman qui cuisine merveilleusement bien et qui m'a toujours, je veux dire, emmené quand elle faisait des communions, des choses comme ça, des mariages pour les gens du village. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, parce que je trouve que faire à manger, c'est donner du plaisir, donner
partager.
Du bonheur, partager.
Ouais.
Et j'ai voulu faire le lycée hôtelier de Strasbourg. Et donc, à l'époque, c'était assez compliqué pour y rentrer. Il fallait passer un concours. Donc, j'ai passé ce concours. J'ai réussi. Et là, j'ai découvert un endroit absolument merveilleux, parce que très vite, j'ai été pris en main par un prof de cuisine qui s'appelait Monsieur Pfindel, qui a été un peu mon père spirituel pour ça. Et j'ai eu deux années de scolarité fantastiques avec des stages. Et j'ai terminé mon dernier stage de BEP à l'époque à Paris, dans un établissement donc, qui s'appelait le Sofitel Bourbon, avec un meilleur ouvrier de France était en cuisine
sûr.
À l'époque. Et après trois jours de travail, de stage sur place, il m'a dit « Écoute, petit, si tu veux, tu ne seras plus stagiaire, je te prends comme premier commis, si ça t'intéresse. » Donc j'ai appelé ma maman, j'ai dit « Maman, je ne reviens pas à Strasbourg, parce que je devais revenir pour faire mon BTS. » Et je suis resté à Paris pendant 7 ans, voilà.
7 ans, et donc tu étais, en tant que jeune, c'est bien, c'est là qu'il fallait être pour apprendre la vraie vie, quoi.
The
la
place
vie parisienne.
To be, comme dirait l'autre. Hein. Wow. C'est vrai que moi, j'ai découvert
Paris.
Un village de 450 habitants, parce que même à l'époque, je ne sais pas pour toi si c'était comme ça, André, mais on allait de temps en temps à Strasbourg, mais c'est très, très rare. Et là, du coup, je me suis retrouvé à Paris.
Dans la capitale.
Avec une petite anecdote que je peux raconter. Le premier jour où je suis arrivé, ça ne va pas durer très longtemps, mais j'avais rendez-vous avec le chef de cuisine sur place. Et là, j'arrive, il était midi et demi, donc tu t'imagines à Paris, plein service.
Ouais,
il m'a dit, écoutez, revenez vers 2h, 2h30, j'aurai plus de temps pour vous. Donc pour moi, c'était l'enfer, parce que j'étais déjà arrivé au Sofitel Bourbon, donc je suis ressorti, j'ai pris à droite, la première terrasse que j'ai vue, je me suis arrêté, et j'ai commandé une salade niçoise et une petite Heineken à l'époque, parce qu'il n'y avait pas.
Mignon, ouais.
Et ma maman m'avait donné 50 francs à l'époque pour aller à Paris, et j'ai dépensé 47 francs pour la salade niçoise.
Donc il ne te resterait plus grand-chose.
Il ne restait rien.
3 francs,
voilà.
Ouais. Et pour toi, c'était comment cette vie parisienne quand on a à peine 20 ans? Ça devait être l'effervescence, ça devait être extraordinaire pour toi.
J'avais 17 ans.
À 17,
et,
ouais.
Et j'ai trouvé ça, mais pour moi, ça a été une nouvelle vie, quoi. C'est-à-dire des rencontres avec des gens que j'imaginais, mais que je ne pouvais pas imaginer si proches de moi. Et donc, trouver une deuxième famille, parce qu'à l'époque, on avait la chance d'être nourri et logé quand on travaillait dans les établissements parisiens. Et j'ai découvert ce milieu de la restauration avec plein d'autres choses autour, parce que c'est là où aussi j'ai commencé à découvrir le rugby avec l'équipe de Guy Savoie, qui j'ai joué un peu au rugby pendant 3-4 ans. Et ça a été des moments fabuleux. Donc, la belle restauration, des vrais copains, des vrais amis, et puis le sport qui
on en parlera un peu plus tard du sport, parce que tu as fait du sport de haut niveau. Et après, dis-moi, qu'est-ce qu'on écoutait comme musique à Paname quand on avait ton âge, 17-20 ans? On écoutait les Stones, les Floyd, Cat Stevens, t'écoutais quoi à l'époque?
Écoute, Cat Stevens un petit peu, mais c'était principalement... À l'époque, c'était Donia Summer, c'était déjà un peu le début de Michael Jackson, c'était un petit peu tout ce côté un peu... pop, un petit peu, ouais, très sympa, voilà. J'aimais beaucoup aussi, comment ils s'appellent, ces chanteurs américains, puis ces chanteurs anglais,
Sinatra,
comme Elton John, etc. Un peu, parce qu'on allait beaucoup en boîte de nuit, à l'époque, on travaillait beaucoup, parce qu'on commençait à 9h, on finissait à 15h, on reprenait à 17h30, on finissait à 23h, on se disait, je dormirai cet après-midi, mais on dormait jamais. Et on sortait, puis tous les jours, vers 3-4 heures, on se couchait, et puis le matin à 9h, on repartait au boulot. C'est heureux,
génial.
C'était fabuleux.
Mais ça se sent, ouais. Alors, tu étais très solaire, joyeux, ou tu étais plutôt petite fleur à l'époque?
Non, solaire, joyeux.
Écoute, on va écouter une petite musiquette qui va te plaire. Mets-nous voir un peu de Cabrel, là, ce qu'il m'a demandé, notre ami PPZ. Oh, pardon, Monsieur Zorro.
Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
C'est beau quand les étoiles parlent, c'est magnifique.
Cabrel, c'était des gens un peu comme Goldman, etc. Je trouve que c'était des paroliers absolument fantastiques. Alors, je ne parle pas des très anciens comme Brassens, comme Brel, etc. Mais je trouve que Cabrel, etc., c'est des gens qui, dans les années 80, écrivaient des belles mélodies et puis voilà, des belles paroles.
Des beaux textes.
Et ça, je suis assez amoureux de ça. Ouais.
Et puis, La Petite Marie, c'est quelque chose qu'on entendra encore dans 10 ou dans 20 ans, tellement
oui,
c'est joli. Quoi, tu
ça
vois.
Fait déjà 40 ans
et
qu'on l'écoute.
Qu'on l'écoute, c'est vrai. Et toi, dis-moi aussi, tu joues aussi sur un morceau de bois? Tu joues un instrument de musique?
Alors, j'ai pas eu cette chance, on va dire. J'ai fait un peu d'harmonica parce que ma maman jouait de l'harmonica à l'époque. Et comme tout le monde, j'ai pris un peu cet instrument, je l'ai mis dans la bouche, j'ai réussi à sortir des sons assez sympas. Mais j'ai jamais été un aficionados, ni un, on va dire un expert en la matière, quoi.
Et alors, tu m'avais dit aussi, je le sais, tu as fait aussi le conservatoire de musicologie à Paris, mais en tant qu'amateur ou professionnel?
Alors, quand je suis arrivé à Paris dans les années 92, donc après quelques années donc à Paris, je suis revenu un petit peu à Strasbourg, et en 92, je suis reparti à Paris. Et là, j'ai découvert donc mon épouse, Anne, qui était déjà...
T'as connu l'amour à Paris. Ouh.
Qui était déjà chanteuse lyrique à l'époque, et qui était au conservatoire. Et on avait... et elle m'a emmené. Un jour, elle m'a piégé, comme ça. Elle m'a dit, écoute, j'allais l'écouter parce qu'elle était avec des gens absolument fantastiques au conservatoire. Et un jour, ils m'ont piégé. Ils m'ont demandé de faire 2-3 vocalises. Donc j'ai fait quelques vocalises et j'ai passé le concours pour rentrer. Donc j'ai eu cette chance de rentrer dans le conservatoire.
Est-ce que ta femme t'a repéré parce que tu as une voix sombre, une voix d'ours comme ça, de teddy bear?
Non, elle m'a dit que j'avais une voix sympa, mais il faudrait que je travaille un peu. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, je fumais un peu. Et je me suis arrêté de fumer. Donc j'ai commencé à travailler cette voix un peu. J'étais au conservatoire donc en classe de chant lyrique, avec un professeur qui s'appelait Enzo La Selva, qui a été notre premier professeur, qui était à l'époque, lui, ténor à l'Opéra de Bastille. Voilà.
Mais ça devait être dur de rentrer comme ça dans cette institution, non?
Alors, écoute, dur, j'ai passé le concours, une anecdote, on m'a demandé de chanter à l'époque... un air de Mozart, hein, donc c'était un air, donc je suis arrivé, je me rappelle, et une ou deux fois, donc ils m'ont fait démarrer, et à chaque fois ils m'arrêtaient, et je comprenais pas pourquoi ils m'arrêtaient, et en fin de compte je prenais toujours à l'octave en dessous.
Je croyais que c'était lui, le disque qui était rayé.
Non, pas du tout, donc ils m'ont dit, écoutez, vous avez une voix très agréable, mais il faudra apprendre le solfège, donc donc je m'y suis mis un petit peu, et puis j'ai passé 3 ans au conservatoire, donc sur Paris. Et ensuite, départ pour le Pays Basque, Biarritz. Là, j'ai continué, bien sûr, à travailler avec mon épouse. Mais en même temps, on a rencontré... j'ai travaillé au conservatoire de Bayonne avec Jacques Schwartz. Et surtout, on a rencontré une prof qui s'appelait donc Marie Downing, qui était une soprano américaine avec qui on a travaillé pendant quelques années. Ensuite... Départ pour Monaco.
Est-ce que je peux t'arrêter un tout petit peu? Est-ce que tu peux me chanter quelque chose à cappella avec ta magnifique voix?
Si tu veux.
Je pense que toutes les grandes oreilles vont craquer là derrière leur poste. Vas-y voir.
Old Man River, that old man river, he must know something, but don't say nothing, he just for running. Voilà.
C'est magnifique, c'est beau, ouais,
écoute,
t'as une
c'est, voilà,
super voix
c'est...
craquante. Alors tu as aussi chanté à l'Opéra de Paris, ils t'ont intégré une fois que t'as fait tous ces cours de chant, où tu étais à Biarritz, à Monaco, tout ça.
Alors pas à l'Opéra de Paris, par contre j'ai passé les auditions à l'époque pour l'Opéra de Strasbourg. J'ai chanté pendant 12-13 ans à l'Opéra de Strasbourg dans les chœurs supplémentaires. J'ai eu l'occasion aussi de faire 2 grands rôles en Allemagne, j'ai chanté le rôle de Zarathustra. En Allemagne, à Kehl et à Freiburg, avec donc orchestre, et donc le rôle de Zarathustra, qui est le rôle de la basse profonde.
Voilà. Et il existe alors plusieurs différentes tessitures de voix d'hommes,
oui,
des ténors,
fait.
Des barytons. Toi, t'es plutôt où? T'es plutôt dans la bassesse?
Donc tout en haut, on a ce qu'on appelle un contre-ténor. Ensuite, on a les ténors, donc ça, c'est les voix aiguës. Ensuite, on a les barytons et on a les basses. Voilà.
Toi,
les basses,
basse.
C'est les voix les plus graves. Voilà. Oui.
Et alors, elle est venue comment? C'est la cigarette qui t'a emmené là ou...
Non, pas du tout. Je crois que c'est une question de morphologie aussi. Hein. C'est vrai qu'en général, quand on est grand, moi j'ai la chance de faire 1m86. J'ai toujours eu cette voix un petit peu grave et c'est vrai que...
Même pendant ta scolarité, t'avais toujours cette voix?
Je peux pas dire ça parce que quand j'étais gamin, j'ai quand même chanté dans la chorale de l'église de chez Versailles, où j'étais soprano à l'époque.
Ah ouais, donc ça commençait là.
Et donc j'étais voix très aiguë et puis ensuite j'ai... La voix a mué comme tout le monde, et puis écoute, j'ai la chance d'avoir cette voix. Ça m'a permis de chanter dans les opéras, ça m'a permis aussi de faire un peu de radio. J'ai fait pas mal de voix pour Arte.
Ça s'entend.
Et donc ça, c'était assez sympa. Ouais. Voilà.
Et dans les cuisines, j'imagine, avec ta voix, tu devais...
Oui, alors j'avais pas besoin de porter la voix outre mesure. C'est-à-dire que c'est une voix qui est à la fois rassurante, bienveillante, mais en même temps qui se fait écouter, notamment quand j'étais prof de cuisine au lycée hôtelier
Strasbourg.
On en
reparlera un peu tout à l'heure. On va déjà un petit peu reposer les oreilles. On écoute une petite musiquette que tu as choisie, que tu m'as demandé. Vas-y voir, mets-vous nous voir la carte, Thomas, derrière ton aquarium. Ça va te plaire, ça, tu vas voir. Alors dis-moi, tu aimes être baigné dans cette atmosphère musicale? Ça te plaît, ça, cette musique, cette œuvre-là qu'on vient d'entendre?
Alors, il n'y a pas que cette œuvre-là, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de découvrir...
C'est laquelle? Tu la connais, celle qu'on
a mise? Alors ça, c'est l'ouverture de Parsifal, donc...
De Wagner?
De Wagner, qui est une œuvre magnifique que j'ai eu la chance de chanter 2 fois à l'Opéra de Strasbourg, dans les chœurs, bien sûr, avec Anfortas, avec Gournemans, avec tous ces magnifiques voix. Et c'est Wagner a cette, Alors, il y a des auteurs qui sont exceptionnels, hein. Il y a Puccini, il y a Verdi, mais dans les Allemands, je trouve que, bien sûr, Mozart, c'est incontournable, mais Wagner, pour un contemporain, je trouve qu'il a cette... pour moi, c'est vraiment un auteur à part. Voilà, c'est quelqu'un qui a écrit de la musique, moi, qui me fait rêver. Voilà.
Et comment tu fais pour mémoriser ça quand tu chantes dans un groupe? Comment tu mémorises tes notes? Toi qui n'as pas fait de... Tu disais que tu viens pas de ce monde de solfège et tout. T'as dû beaucoup travailler, j'imagine.
Quand j'ai été au conservatoire, il a fallu faire des cours de solfège. Et en même temps, je travaillais tous mes rôles avec mon épouse, qui, j'ai la chance, qui est une véritable bête, qui aujourd'hui est prof d'ailleurs de chant à Trüchtersheim et à Schiltigheim.
Ah, génial.
Et elle m'a fait travailler... ses œuvres d'une manière assez précise, ce qui fait que j'arrivais en général aux premières répétitions en connaissant parfaitement la partition. Voilà.
Écoute, on va un petit peu changer de sujet. Maintenant, on va parler d'une petite balle jaune qui t'a aussi chatouillé pendant longtemps et toujours et encore et aujourd'hui. Et tu es toujours classé au tennis 15, 15-1 ou 15-2.
Non, 15, je ne suis plus.
Tu l'as été.
Voilà, j'ai été à mes meilleurs classements 15-1, 15-2.
Waouh, c'est pas rien quand même.
Oui.
Moi qui étais 30 ans, je peux te dire que c'est pas rien de battre un 15-1.
Voilà, aujourd'hui, je suis encore 15-3. Donc voilà.
Dis donc, t'es humble, hein, c'est pas mal quand même.
Oui, oui, oui. Mais bon, avec l'âge venant maintenant, c'est vrai que pour se maintenir en forme, il faut vraiment être très très bon. C'est un sport que j'ai découvert tard, en fin de compte. J'ai fait du basket quand j'étais à Schaeffersheim, j'ai fait du rugby longtemps quand j'étais à Paris. Et quand je suis revenu donc à l'âge de 24-25 ans, j'ai commencé le tennis. Et donc c'est vrai que j'avais la chance d'avoir un bon physique. Et donc je suis monté assez vite à 15-4, 15-3 à l'époque parce que
tu avais le physique, sens de la balle ou parce
j'avais
que...
le sens de la balle et puis j'avais surtout un très très bon physique. Je jouais numéro 6 moi, donc 3e lignée en rugby. Donc j'avais un très très bon... physique, et ça m'a permis de monter assez vite en classement. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis passionné parce que j'ai un groupe de copains avec lesquels je continue à jouer. Donc,
que je connais, que j'ai filmé un jour il y a longtemps.
Oui, quand t'es venu au Trot.
Ouais,
donc on a monté une petite équipe comme ça de copains. Donc il y a Bruno Aubry, il y a Sylvain Calibjean.
Aubry, c'est pas n'importe qui non plus.
Ah
hein.
non.
C'est un bon. Hein.
Ouais, bah, écoute, c'est lui qui a découvert Arnaud Butch, etc.
Ouais, c'est ça,
donc
absolument.
C'est un mec absolument fantastique. Sylvain Calibjean, donc c'est tous des mecs qui ont été à 0, 2, 6, etc. Avec qui je continue à jouer. On fait cette équipe de plus de 55, même si on a presque tous 65. Mais on continue à jouer et on s'amuse tous les ans à aller parfois... Bah écoute, il y a de ça 5-6 ans, on était quand même en quart de finale du championnat de France, en plus de 55 ans. Et on est allé régulièrement en finale aussi à la Coupe Carren, qui est une coupe laquelle on regroupe à Arcachon tous les meilleurs clubs et les meilleures équipes des clubs français.
Et quelles sont un peu tes lumières, tes champions de tennis que tu apprécies, que tu aimes? Notre voisin Federer, éventuellement?
Alors écoute, j'ai grandi, moi, plutôt avec des gens qui m'ont fait rêver à l'époque, qui étaient
Agassi.
Borg, McEnroe.
Ouais.
Après, bien sûr, les Sampras, les Agassi. Federer, Djokovic et Nadal sont pour moi des... Alors ça, ce sont trois monstres sacrés, et je veux dire, chacun dans leur genre sont des gens absolument exceptionnels et qui sont, qui ont, à mon avis, amené le tennis au plus haut niveau.
Ouais. Ouais, c'est extraordinaire ce qu'ils font, ces gens-là.
Ouais.
C'est vrai que Federer, il a une carrière exceptionnelle.
Oui.
Exceptionnelle.
De tennis, mais aussi d'homme d'affaires.
D'homme d'affaires.
Voilà,
oui.
Je trouve que c'est un mec, il a su gérer beaucoup de choses. Mais surtout au tennis, tennistiquement, c'était un dieu.
Ouais, moi, je l'ai rencontré plusieurs fois à Roland-Garros. C'est vrai que c'est un monsieur, un champion, un gentleman.
Un charisme incroyable.
Absolument, absolument. Voilà. Et ce sport t'a apporté quoi alors pour la cuisine? Ça t'a aidé
Pour la cuisine, je dirais pas. Pour moi, c'est vraiment un moment où je pense à rien d'autre. Parce que cette petite balle-là qui t'arrive dessus, où il faut te placer, il faut réfléchir, etc. Et puis, le tennis, c'est un vrai jeu, c'est un vrai sport de
c'est
jeu.
Vrai, c'est un jeu.
Moi,
ouais.
Courir et faire du vélo m'ennuie, parce qu'on est tout seul. Là, on a un mec en face avec qui on essaye de découvrir... qu'est-ce qu'il va faire, comment il va te positionner la balle, comment il va te la placer pour te mettre en difficulté. Et ça te donne justement cette possibilité de pouvoir toujours être meilleur et être au meilleur de ta forme pour arriver à le mettre en difficulté.
Ouais, je comprends ça, parce que moi aussi, c'est un peu ma passion, le tennis. Et alors, tu as essayé, dans les différentes écoles, tu as formé beaucoup, beaucoup, beaucoup de cuisiniers, dont des étoilés, des gens qui sont aujourd'hui étoilés.
Beaucoup de chefs,
Beaucoup de chefs, ouais.
J'ai eu la chance de former. Le premier grand que j'ai formé, c'était Laurent Huguet, que j'ai eu, donc c'était la promotion Laurent Huguet, qui était le chef au Crocodile pendant pratiquement 20 ans, hein, à l'époque. Il y a eu Julien Bins, il y a eu Nicolas Stamm, il y a eu plein de gens qui aujourd'hui sont un peu sous la lumière. Mais écoute, c'est comme ça, j'ai quand même été prof de cuisine à Strasbourg de 83 à 92 et ensuite de 2000 à 2000 de 2001 à 2020 à 2019.
Et là tu parlais du Nicolas Stamm à l'instant, de la Fourchette des Ducs qui a organisé il y a quelques semaines ce bel événement là qui des étoilés. On est un peu triste quand même que les plus d'étoiles à Strasbourg, je trouve ça un peu désolant quand même en Alsace, qu'on manque de 3 étoiles, c'est quand même, franchement, c'est quoi ces gens du Michelin? Est-ce qu'ils ont été biberonnés au McDo ou quoi? Ces décideurs?
Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de changer un petit peu cette... Moi, je pense très honnêtement, et je l'ai dit haut et fort à l'époque, je crois qu'il y a des institutions auxquelles il ne faudrait pas toucher. Quand tu vois des gens qui, pendant 50 ans, étaient en trois macarons, comme les Eberlin, comme
c'est
Bocuse, etc. Je pense que c'est des institutions, il faut plus y toucher. Ils ont un statut à part. De toute façon, les clients et les gens le savent. Je crois que tous les jours, en se levant, ils veulent faire le meilleur. Après, c'est le jeu. Thierry Marx disait très dernièrement, c'est le jeu. On sait qu'on va en gagner, on peut en perdre aussi. Donc voilà, je ne rentrerai pas là-dedans. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu... un surdimensionnement un petit peu au niveau de l'ego de nos chefs. Et beaucoup oublient que quand on a un établissement dans lequel on a 1, 2, 3 macarons, voire aucun, il y a autant de place à donner au plongeur, à la dame qui repasse les nappes, que celui qui en tire les lauriers.
Tu penses qu'ils l'ont oublié, ça? Tu penses qu'ils s'en souviennent pas de ça?
Certains, parfois, j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié.
Ils méritent qu'on leur enlève une étoile, effectivement.
Non.
Parce que franchement, on ne peut pas se passer d'une plongeuse, de quelqu'un dans un groupe.
C'est pas ce que je dirais. Je dis simplement que quand on a des étoiles, on a une équipe derrière soi et il faut dire chapeau à tous ces gens tous les jours parce qu'il faut venir travailler, il faut donner de soi-même, il faut rentrer dans cette entreprise qui, quelque part, va vous demander de devenir un petit peu le deuxième doigt ou le troisième doigt du chef qui est à la tête de cet établissement. Pour moi, je pense qu'il y a les étoiles, il y a Goemio, il y a d'autres guides qui existent. Je n'irai pas plus loin par
D'accord.
rapport à ça.
Bon, ben écoute, c'est très bien, on en a parlé, c'est intéressant. Maintenant, aujourd'hui, tu es comme moi un peu en retrait de la vie, tu es en retraite, on peut dire ça. Tu es du redouble d'énergie, tu as un truc qui s'appelle, tu as un endroit qui s'appelle Fenêtre sur cour. C'est une belle aventure, ça, quoi. C'est le titre du film d'Alfred Hitchcock.
Oui, alors ça, c'est...
Tu regardes par la fenêtre.
Si tu veux, c'est quelque chose que tu connais parce que tu étais venu à un moment donné quand on avait fait cette émission merveilleuse avec tes équipes de France 3. Alors, 2019, j'avais 60 ans, j'ai pu bénéficier d'une carrière longue parce que j'ai commencé à 17 ans à Paris. J'ai bénéficié donc de la retraite éducation nationale, chose qui m'a conforté. Mais à côté de ça, on a créé un lieu qui est un lieu unique à Strasbourg, qui s'appelle Fenêtre sur cour, qui est dédié à l'événementiel, dans lequel on fait des soirées musique et gastronomie, et au-dessus duquel j'ai également un studio TV dans lequel je fais des tournages vidéo pour un certain nombre de partenaires.
Mais pour les partenaires, pour le grand public également?
Non. Oui, il peut y avoir, mais surtout des partenaires professionnels comme SAPAM. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un collègue à moi qui s'appelle Jean-Michel Truchelu, je suis dans la rédaction d'ouvrages. On a écrit la pâtisserie de référence pour les éditions BPI. Là, on est en train de faire un nouvel ouvrage qui va s'appeler le livre de référence sur la cuisine végétale.
Ah, mais c'est avec Alain.
Alain Kleinbeck.
Il est venu au micro il y a quelques semaines.
Merveilleusement bien. D'ailleurs, il était très touchant.
Mais il est très touchant, monsieur. Il est des fois un peu larmoyant, comme moi aussi. Je trouve. C'est quelqu'un d'humble et tout. Bah, écoute, moi, ce que je voulais te demander, en tout cas, j'étais très content. Je vois que le chrono avance, on est presque à la fin de l'émission, c'est pas ça? C'est pas, on est à la fin. Alors voilà, bah écoute, je vais te remercier tout simplement et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On va voir si on peut mettre le petit générique de fin. À bientôt.
Merci
beaucoup.
André, merci à tous et merci Judaïka.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.